L'invité régional avec les radios chrétiennes des Pays de la Loire.
Denis Lancel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un journaliste sexagénaire qui avait commencé votre carrière en Mayenne, à Laval. Vous avez écrit pour plusieurs journaux, pour France Catholique, pour L'Homme Nouveau, pour de nombreuses revues. Vous avez été enseignant. Vous avez aussi écrit des livres, notamment sur des thèmes religieux, sur des papes, mais pas que, parce que vous avez écrit aussi un ouvrage sur Emmanuel Macron. Vous connaissez bien les pays de l'Est où vous êtes rendu à de nombreuses reprises, et c'est pour ça qu'on a souhaité avoir votre avis, notamment sur la crise entre, évidemment, l'Ukraine et la Russie.
Ben oui, après notamment 10 séjours en Ukraine et 10 autres séjours en Russie aussi d'ailleurs, alors voilà.
Dites-moi, on pense souvent qu'il y a plusieurs Ukraines, une russophone, une ukrainienne, sans parler de nombreuses minorités, grecques, polonaises. Cette guerre ne montre-t-elle pas qu'il y a en fait qu'une seule Ukraine ?
Je pense que si, tout à fait. D'ailleurs, la réaction de la population ukrainienne devant l'invasion russe le montre bien. Si il n'y a qu'une seule Ukraine, cette Ukraine est une nation inattendue, qui est à la fois une et diverse dans sa volonté d'indépendance. Une volonté d'indépendance qui a déjà été manifestée dans la déclaration du référendum de 1991 à 92%.
Ça, c'était au moment de la fin de l'URSS, là.
Mais exactement.
Oui.
Et cela, quelle que soit la langue qui est pratiquée dans telle ou telle zone de ce pays, plutôt très majoritairement le russe à l'est,
oui,
et très majoritairement l'ukrainien à l'ouest. Et souvent, dans la capitale Kiev, un mélange des deux. Kiev, qui est depuis longtemps une capitale cosmopolite, où on trouve aussi d'ailleurs des Polonais,
oui,
par exemple, ou des gens d'origine roumaine. L'Ukraine, en fait, c'est un pays frontière, c'est une terre de transition entre le monde méditerranéen gréco-latin, au,
oui,
sud notamment, ou à l'ouest, et le monde russe, au nord.
Oui.
Comme Jean-Paul II l'a dit d'ailleurs lui-même, lors de sa venue à Kiev en 2001, à laquelle j'avais assisté, Jean-Paul II disait l'Ukraine, c'est un pays carrefour entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Là, maintenant, il y a la guerre, maintenant.
Voilà, c'est ça. Je pense qu'il faut, oui, qu'on vienne un petit peu sur ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. Mais quelle est la part de l'histoire dans ce conflit ? La langue russe imposée il y a plusieurs siècles, la famine organisée il y a 90 ans par Staline, ou la catastrophe de Tchernobyl, est-ce qu'elles n'ont pas marqué vraiment le cœur des habitants ?
Oui, beaucoup, alors, au fil des ans. En fait, le poids de l'histoire est écrasant dans un conflit qui, en fait, alors qui date de plus de 3 siècles. D'abord, avec des entreprises successives d'éradication de la langue ukrainienne au profit d'un monopole, tentative de monopole de la langue russe, depuis un décret du tsar Pierre le Grand en 1720 jusqu'à un télégramme de Staline en 1933 qui appelait à éliminer les derniers écrivains ukrainiens qu'on envoyait déjà en Sibérie. Et cette même année, 1932-33, deuxième drame, c'était ce qu'on a appelé le Holodomor, c'est-à-dire la terrible famine artificielle qui a également été ordonnée par Staline, qui a fait mourir de faim de 5 à 7 millions de paysans ukrainiens. Un, oui, début de génocide. Puis, après, cerise sur le gâteau, en avril 1986, en effet, autre calamité soviétique, la catastrophe de la centrale nucléaire Lénine de Tchernobyl, dont l'emplacement et les choix technologiques dangereux avaient été imposés par Moscou contre l'avis d'un dirigeant ukrainien qui a été vite limogé, et cela a été un autre facteur de scandale et de révolte qui a provoqué l'éclatement de l'Union soviétique en 1991 avec la prise d'indépendance de l'Ukraine et à l'époque de la Biélorussie.
On sent bien qu'aujourd'hui le pays est complètement dévasté, qu'il subit une énorme catastrophe. Mais quand même, la Russie c'est un énorme pays, l'Ukraine c'est un petit pays. Qu'est-ce qui fait le ciment de ce peuple qui résiste ?
Un petit pays de 45 millions d'habitants.
Oui, enfin un peu plus petit, un peu plus petit que la France.
Certes, plus petit que la Russie qui est certes à 150 millions d'habitants. Le ciment de ce peuple ukrainien. Eh bien, alors d'abord, hier et encore aujourd'hui, là, il y a eu depuis le début, la marque indélébile du baptême chrétien de Kiev en 988, ça c'est une source, une souche culturelle à une époque où les églises d'ailleurs de Constantinople et de Rome étaient encore en pleine communion, comme Jean-Paul II l'a rappelé lors de sa visite en juin 2001 à laquelle j'avais assisté. Alors aujourd'hui, c'est bien sûr beaucoup plus important et c'est un facteur de ralliement, une volonté d'indépendance nationale et de laboratoire de démocratie depuis longtemps. Depuis l'époque lointaine des Cosaques Zaporogues qui élisaient leurs chefs entre deux ou trois bandes rivales peut-être, mais qui s'entendaient, qui pouvaient s'entendre ainsi, alors qu'à Moscou, en Russie, c'est l'autocratie tsariste ou soviétique, stalinienne, qui domine uniformément. Et c'est encore plus net, depuis la chute de l'URSS en 1991, et puis en Ukraine, depuis la révolution orange de 2004 et celle de 2014, contre les manœuvres de Poutine, contre Poutine agissant contre la transparence électorale et la liberté. Plus généralement, le peuple ukrainien manifeste aussi une ouverture culturelle et spirituelle à l'Europe occidentale, oui, dans ses racines chrétiennes notamment. Ça date du XVIIe siècle notamment, comme l'avait montré un évêque orthodoxe de Kiev, qui s'appelait Pierre Mogila, et aujourd'hui il y a une université Pierre Mogila à Kiev, hein, toujours, qui voulait une réconciliation avec l'Église catholique, avec, oui, Rome, oui, l'œcuménisme avant la lettre. Cette volonté de rapprochement plus général avec l'Occident existe toujours en Ukraine, mais elle est violemment combattue par une Russie jalouse, qui elle est beaucoup plus nationaliste, la Russie. Alors dès aujourd'hui, je terminerai par là, dans sa volonté de résistance à la violence militaire du Kremlin, à l'agression de Poutine, le peuple ukrainien, c'est vrai, il laisse respirer librement sur son sol des fidèles, des deux poumons de l'Église, pour reprendre une expression à la fois de Jean-Paul II et d'un intellectuel russe d'ailleurs, Byzance et Rome, dans un amour commun de la liberté en fait. Au fond, le ciment, c'est un amour commun de la liberté dans une ouverture à l'Occident.
Mais dites-moi, Denis Lancel, nous, est-ce qu'on n'a pas une certaine responsabilité, nous occidentaux? Je veux dire, est-ce qu'on n'a pas un peu trop idéalisé la personnalité de Poutine ces dernières années?
Bien, je pense que si, souvent trop, parfois beaucoup trop. En Occident, on a cru trouver un remède relatif contre une certaine décadence actuelle. On a cru, ces dernières années, à une propagande habile qui présentait Vladimir Poutine comme, on disait, un défenseur des valeurs morales, on disait ça dans des milieux conservateurs, avec des valeurs présentées abusivement comme des valeurs chrétiennes, alors qu'elles étaient plutôt instrumentalisées à des fins purement politiques. Ah oui. Et on n'a pas tenu compte du fait que Poutine est une créature du KGB, qu'il est fasciné par le souvenir de Staline, et qui rêve avant tout de reconstituer l'Empire soviétique d'avant la chute du mur de Berlin. Il l'a dit. Et Poutine, en fait, qu'est-ce qu'il voudrait? Il voudrait enclencher une sorte de marche arrière dans l'engrenage de l'histoire qui avait libéré les peuples d'Europe de l'Est de 1989 à 1991. Moi, j'avais écrit à ce sujet un livre, là, je l'appelais « Le passage de la mer Rouge ».
Oui, oui, je m'en
rappelle. Poutine, en fait, il rêverait de bâtir un avenir avec un retour au passé impérial de l'URSS, ce qui est une entreprise impossible, d'ailleurs, et dont la violence ne peut aboutir, à mon sens, qu'à un échec sanglant. Et ça commence, ça a déjà commencé avant, d'ailleurs, mais ça continue actuellement en Ukraine.
Dites-moi, une dernière question, Denis Lancel, très brève. Qu'est-ce qu'aujourd'hui les Ukrainiens attendent de nous?
Trois choses. Premièrement, que l'on comprenne bien leur identité véritable. Celle d'un peuple, frère du peuple russe, mais différent par des origines plus anciennes et par cette ouverture occidentale et par une sensibilité démocratique. Deuxièmement, une solidarité que nous n'avons guère manifestée jusqu'au déclenchement de cette guerre affreuse, qui reste à renforcer. Et puis troisièmement, bien que nous sachions nous-mêmes occidentaux nous défendre plus efficacement contre l'agressivité vindicative et la volonté de reconquête impériale de Vladimir Poutine.
Ça peut nous servir de leçon, finalement.
Ça devrait nous servir de leçon. Il est bien tard, d'ailleurs, mais mieux vaut tard que jamais, parce que nous sommes vraiment à l'heure de cette troisième guerre mondiale d'après le pape François, avait déjà commencé par morceaux, disait-il, dès 2013. Et cette fois, on est à l'heure de la Troisième Guerre mondiale.
C'est un peu pessimiste, mais c'est quand même un examen très concret de la situation. Je vous remercie beaucoup, Denis Lancel.
Et je vous en prie.
Allez, bonne journée.
Merci.